en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Priscille Lafitte.
Bonjour Robert Kopp.
Bonjour.
Vous êtes correspondant à l'Académie des sciences morales et politiques, professeur de littérature française à l'Université de Bâle et directeur de la collection Bouquins chez Robert Laffont. Et vous avez bien connu, se trouve, Jean-François Revel. Comment est-ce que vous l'avez rencontré exactement ?
Eh bien, j'ai rencontré Jean-François il y a une bonne vingtaine d'années chez Claude Imbert. Vous savez que
directeur du Point.
Claude Imbert a fondé Le Point avec Jean-François Revel. C'était un groupe de journalistes qui avait quitté l'Express pour fonder un autre journal qui existe toujours. Et Jean-François était dans cette équipe. Et c'est donc chez Claude Imbert que je l'ai vu. Et nous nous sommes liés d'amitié. Il est souvent venu me voir à l'université de Bâle où je l'ai invité à faire des cours et des conférences.
C'est donc un portrait de Jean-François Revel, écrivain, critique littéraire et critique d'art, que nous allons esquisser aujourd'hui. Jean-François Revel est d'abord un philosophe, professeur de philosophie, et sa carrière littéraire et journalistique ne débute qu'en 1957, il a tout de même 33 ans, et il devient par la suite conseiller littéraire et directeur de collection chez René Julliard, chez Jean-Jacques Pauvert et chez Robert Laffont. Après quoi, en 1978, il devient directeur de l'hebdomadaire L'Express, puis en 1981, vous le disiez, il rejoint Claude Imbert au Point. C'est donc assez original de prendre, en fait, d'esquisser un portrait de Jean-François Revel comme critique littéraire ou comme critique d'art. C'est pas l'aspect de sa personnalité que l'on connaît le mieux.
Oui, vous avez raison, ce n'est peut-être pas l'aspect qu'on connaît le mieux, mais dans ce que vous venez de dire, il y a un mot auquel Jean-François Revel tenait particulièrement, c'est le mot « écrivain ». Il m'est arrivé de le présenter au public bâlois, un peu comme vous venez de le faire, en énumérant ses différents écrits, en parlant du philosophe, en parlant du politologue, en parlant de l'éditorialiste, en parlant du pamphlétaire. Et il m'a repris, quand je lui ai donné la parole, en disant « Oui, mais tout cela, ensemble, fait que je suis en réalité écrivain. » Il tenait beaucoup à cette appellation, comme il tenait beaucoup à l'unité profonde de son œuvre. Donc je crois qu'il ne faut pas séparer les différentes activités. Certes, pour la commodité, on peut jeter un regard particulier sur l'un ou l'autre versant, mais il ne faut pas oublier que tout cela est intimement lié.
Alors pour commencer ce portrait de Jean-François Revel comme écrivain, prenons son grand essai de critique littéraire qui s'intitule « Sur Proust ». Évidemment, il porte un regard sur la recherche du temps perdu. Cet essai date de 1960 et c'est un de ses premiers livres, enfin son cinquième précisément. Pourquoi Proust, à votre avis ?
C'est un de ses premiers grands livres, oui. Je crois qu'il faut remonter un tout petit peu dans la biographie de Jean-François Revel. Il a donc fait des études de philosophie, il est agrégé de philosophie, ce qui le destine a priori
à l'enseignement.
Exactement. Et il a été enseignant avec passion. Et toute sa vie, il a voulu transmettre. Toute sa vie, il voulait faire passer certaines choses. Et si le mot en français n'avait pas une connotation péjorative, il aurait volontiers dit « je suis un vulgarisateur ». En anglais, cette connotation péjorative n'existe pas. Donc, c'est un professeur de philosophie qui veut transmettre. Et ce professeur est détaché à l'Institut français à Florence, dans les années 50. Et c'est à la fois l'époque peut-être la plus épanouie de sa vie, c'est du moins ce qu'il suggère dans ses mémoires, « Le voleur dans la maison vide », et aussi celle où sa curiosité proprement universelle peut le mieux s'exercer. Comment être à Florence, surtout quand on a comme collègue André Fermigier, et ne pas s'intéresser à l'art, puisque à chaque pas, vous êtes confronté au chef-d'œuvre et de la peinture et de la sculpture et de l'architecture. Donc, c'est à Florence qu'il s'est initié en réalité à l'art et à l'histoire de l'art. C'est à Florence aussi qu'il a été amené à enseigner l'histoire, car cet institut français ne disposait pas d'infiniment de professeurs, il fallait répartir un peu les tâches. Donc on s'est dit, un agrégé de philosophie, il doit bien être capable d'enseigner l'histoire. Donc il s'y est mis et il a aussi enseigné l'histoire. Idem pour la littérature. Donc, ces années florentines ont été des années d'une curiosité universelle, de lecture très grande, et c'est ainsi, elle le raconte d'ailleurs au début de son Proust, qu'il a été amené à relire la recherche. Qu'il a été amené à relire la recherche à une époque où la critique proustienne découvrait le fameux Contre Sainte-Beuve qui suggère que entre le moi de l'écrivain et le moi social de l'auteur, il y aurait un abîme. Or, cette séparation du créateur d'un côté et du sujet social de l'autre a fait que beaucoup de mes collègues se sont mis à disserter sur la recherche comme si Proust, qui se lève tard le matin, court les salons le soir, a des liaisons particulières, etc., n'existait pas. Et Jean-François Revel est retourné au texte, sans doute un peu agacé, comme ça lui arrivait souvent de l'être, a pris le texte à bras-le-corps et a lu le texte, un peu comme un roman réaliste, pour dire, mais ce que Proust décrit d'abord, c'est la société française d'une certaine époque.
Donc on a reproché à Jean-François Revel d'avoir décrit Proust comme une sorte de sociologue. Ce qu'il
oui, c'est-à-dire il en a fait de Proust un sociologue, c'est-à-dire quelqu'un qui décrit d'abord ce qu'il voit, ce qu'il a sous les yeux, comme Balzac a décrit la société de la Restauration et de la Monarchie de Juillet, Proust, pense Revel, décrit la société de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Et il ajoute, et ça c'est nouveau, il décrit cette société avec beaucoup d'humour, beaucoup d'ironie, et c'est le premier, Jean-François Revel, qui a mis l'accent sur le rire chez Proust en disant « c'est aussi un très grand auteur comique. C'est quelqu'un qui met les mécanismes à nu. C'est quelqu'un qui dénonce les tartufferies. C'est quelqu'un qui est extrêmement sensible au ridicule des uns et des autres. » Et donc, il fait de Proust cette lecture tout à fait décapante et tout à fait amusante. Et je dis aujourd'hui encore à mes étudiants, si vous avez du mal à entrer dans Proust, ce que je comprends parfois, eh bien, prenez Revel, vous avez une excellente initiation et d'ailleurs pleine d'humour.
Alors cette critique qui lui a été faite d'avoir lu Proust comme si Proust était un sociologue ou avait ce regard décalé sur la société, il s'en défend de la manière suivante. Il dit « Si j'avais écrit entre 1945 et 1950, on m'aurait reproché d'en faire insuffisamment un sociologue. » Est-ce que c'est une question d'époque, là encore ?
Oui, c'est une question d'époque dans la mesure où dans la critique littéraire, il y a des modes. Il y a en effet, dans les années 40-50, la mode d'une lecture sociologique inspirée d'ailleurs par le marxisme. Le marxisme veut que la littérature soit le reflet de la réalité, ce qui est évidemment faux. Il est vrai que la réalité se retrouve dans la littérature, mais transfigurée, transformé. Et Revel le sait, bien entendu. Il a horreur des doctrines. Il a horreur des théories, il a horreur des systèmes. Et le marxisme lui est aussi étranger que le structuralisme. Au moment où la doctrine ou la critique marxiste domine, on lui aurait dit « vous n'êtes pas assez sociologue, vous n'êtes pas allé assez loin dans cette direction ». Lui, il écrit son livre au moment où le structuralisme commence à se répandre, et à ce moment-là, on lui dit « bah, comment se fait-il qu'on puisse faire une lecture historique, je dirais plutôt historique d'ailleurs, de Proust ?»
Alors, en 1984, Jean-François Revel compose une anthologie de la poésie française, avec ce regard Jean-François Revel qui lui est propre.
Oui, alors il faut savoir que Jean-François Revel avait un tempérament extrêmement vif des avis assez arrêtés sur certaines questions littéraires, esthétiques, politiques, historiques, et qu'il n'en faisait pas mystère. Donc, il ne cachait pas sa subjectivité, il la mettait à jour, il l'articulait, et c'était un grand amateur de littérature, d'art et aussi de poésie. Il y a deux manières de faire une anthologie de la poésie. Vous pouvez essayer de présenter la poésie française sur 10 siècles et vous proposer de façon équilibrée un chapitre sur la poésie médiévale, sur la poésie renaissante, vous n'oubliez pas le baroque, vous dites au XVIIIe siècle, époque un peu désertique pour la poésie, on en trouve tout de même quelques-uns, il y a l'explosion romantique et ainsi de suite. Ce n'est pas la manière de Jean-François Revel. Lui, son anthologie est toute subjective. Alors, plutôt que de faire un grand chapitre sur Victor Hugo parce qu'il est important dans l'histoire de la littérature, il réduit sa place à une portion extrêmement congrue. En revanche, il privilégie Villon, Rudebeuf, etc., etc., les poètes qu'il aime. Au fond, cette anthologie pourrait s'intituler « Les poètes que j'aime, les poètes qui m'aident à vivre, voici ma vision de la poésie française », signé Jean-François Revel. Ce n'est pas l'histoire de la poésie française. Quelqu'un d'autre en ferait une autre. C'est une anthologie qu'on doit situer dans le sillage de celle de Gide, par exemple, qui en a fait une tout aussi subjective, celle-même de Pompidou qui est tout aussi subjective. Ce ne sont pas des historiens, ce sont des hommes de goût qui proposent leur vision et qui invitent d'autres à en faire autant.
Alors dans cette anthologie, quels sont les poètes choisis par Jean-François Revel ?
Oh, c'est beaucoup les poètes de la Renaissance. Les poètes comme Villon qui prennent la vie à bras-le-corps, qui ont un tempérament, qui ont une langue succulente, truculente, et ils s'intéressent beaucoup moins aux poètes un peu formalistes, etc.
Alors, autre pan de l'œuvre littéraire de Jean-François Revel, il s'agit de ses très nombreuses chroniques littéraires qui se sont souvent succédées ou qui étaient en alternance avec des éditos qui étaient politiques. Donc, éditorialiste à l'Express, puis au Point. Et il y a eu plusieurs anthologies de ses textes. À chaque fois, finalement, Jean-François Revel aime écrire des textes courts.
Oui, alors, vous avez raison d'insister sur l'alternance. Je crois que c'est ça le point le plus important. Il passe d'une chronique scientifique à une chronique politique, à une chronique littéraire, à une chronique sur un peintre, etc. Il suit l'actualité. Jean-François Revel est un philosophe au sens du XVIIIe siècle. On a déjà dit que sa curiosité était universelle. Il voulait suivre l'actualité, sans préjugés. Ensuite, en regroupant certaines de ses chroniques, il a fait des regroupements thématiques. Il a fait un volume avec des chroniques littéraires. Il en a fait un autre avec des chroniques sur l'art. Parfois, ces regroupements étaient un peu facilités par le fait que s'il s'agit de connaissances des arts ou de l'œil, des revues spécialisées, elles avaient évidemment demandé à Jean-François Revel de parler de ce qui était leur sujet et non pas du style du général de Gaulle. Donc, il est normal que ces regroupements thématiques aient eu lieu ensuite. Mais si on prend la chronologie au fil des jours, au fil des semaines, on voit que l'intelligence de Jean-François Revel est toujours en éveil et qu'il se saisit absolument de tout.
Alors, Robert Kopp, prenons par exemple une de ses chroniques. On voit que, comme dans ses éditoriaux politiques, il aime, il prend un malin plaisir, on peut dire, à prendre des idées reçues à rebrousse-poil. Par exemple, une chronique sur la politique culturelle des années 80 menée par les gouvernements socialistes, je le cite. Comment la culture, synonyme jadis à la fois d'épanouissement individuel et de civilisation universelle, est-elle devenue un moyen d'uniformiser les masses dans ce qu'elles ont de moins original et de glorifier le pouvoir dans ce qu'il a de plus personnel? Il révèle de parler d'ostentation culturelle, de gonflette de la culture, de religion d'État. Il n'y va pas de main morte. Hein.
Il n'y va pas de main morte. D'abord, il n'y est jamais allé de main morte. Revel est un des de nos derniers pamphlétaires. Et il faut qu'il y en ait dans le sillage de Voltaire et de quelques autres. Ce n'est pas une question de gauche et de droite. C'est une question de conformisme. Là, ce qu'il dénonce, c'est le conformisme de cette politique culturelle, le nivellement par le bas. Il est tout aussi sévère, et il peut aussi parler de gonflette, pour reprendre son expression, à propos de la politique culturelle de Malraux, qui n'est pas particulièrement de gauche, puisque c'était le ministre du général de Gaulle. Donc, il dénonce la gonflette, entre guillemets, partout où il la débute. Parce que ce qu'il veut faire, c'est de dénoncer les fausses valeurs et la conformité.
Alors, autre exemple de chronique à rebrousse-poil des idées reçues, c'est une chronique très étonnante sur l'installation du parc Disneyland à Marne-la-Vallée, à l'est de Paris, où il dit la chose suivante. Que des contes populaires, d'abord imaginés au sein des classes paysannes européennes et transmis par la tradition orale, aient été ensuite transcrits pour le livre par Perrault, par Grimm ou autres, lus à haute voix pendant des siècles à nos enfants, puis transposés au cinéma et montrés au monde entier sous forme de dessins animés par un artiste californien, pour enfin se matérialiser en décor dans de vastes lieux de divertissement, n'est-ce pas là un exceptionnel exemple du cheminement imprévisible des folklores, de quoi passionner les esprits qui intéressent vraiment la vie des cultures?
Oui, tout à fait. Ça ne veut pas dire qu'il faille maintenant installer ce genre de parc aux quatre coins de l'Hexagone. Cela veut simplement dire qu'il y a une certaine forme de culture populaire, il y a une tradition de la culture populaire, des contes populaires. Eh bien, au XXe siècle, elle s'exprime par l'univers de Disney.
Et là encore, on voit qu'on trouve Jean-François Revel là où on ne l'attendait pas.
Oui, oui, mais ce n'est pas chic pour un intellectuel que de dire « ce n'est pas mal ». Il ne dit d'ailleurs pas « il faut absolument y aller toutes les semaines ». Il dit simplement que c'est un parc d'attractions, c'est une forme de culture populaire moderne. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on ferait la grimace? Il sait très bien qu'il existe d'autres formes de culture. Il ne confond pas Disneyland avec je ne sais pas, le festival d'Aix en Provence consacré à l'opéra ou le festival d'Avignon consacré au théâtre.
Cette
dose de provocation, il veut essayer de ne pas regarder les choses à travers des lunettes de couleur convenues. Il ne veut pas simplement hurler avec les loups, il veut essayer de prendre les chemins de traverse et certes certes, il aime réveiller un peu son lecteur. Il y a d'ailleurs toute une série de remarques dans ses différents textes que les enseignants des écoles de journalisme devraient méditer. Comment commencer un article pour capter l'attention du lecteur, et ensuite comment tenir le lecteur jusqu'au bout de l'article pour qu'il ne vous lâche pas en cours de route. Et évidemment, cette technique à contre-courant, cette technique à rebrousse-poil, ce qu'on appelle le paradoxe, est un moyen rhétorique éprouvé depuis l'Antiquité.
Ce qui est révélateur aussi de la personnalité de Jean-François Revel, c'est qu'il ne peut s'empêcher de parler de politique lorsqu'il parle d'art. Par exemple, il évoque un livre « Enfant de l'Arbat » de Anatoli Ribakov et il dit « Il est toujours difficile de porter un jugement littéraire sur une œuvre qui est en même temps un événement politique et un tournant historique. » En plus, sur un sujet tel que le communisme, Jean-François Revel, là, hésite entre ces deux casquettes.
Oui, hésite entre ces deux casquettes, à moins que ce soit une casquette, une seule, d'un tout autre type. Il est absolument contre le fractionnement des disciplines. Il ne veut pas laisser l'art aux historiens d'art, la littérature aux critiques littéraires, les sciences aux scientifiques. Il reproche d'ailleurs très souvent à ses contemporains et d'ailleurs aux grands esprits, à de grands esprits du XXe siècle, cette attention étroite qu'il porte sur la philosophie, disons. Prenons l'exemple de Bergson. Bergson contredisait la théorie de la relativité d'Einstein parce qu'elle ne correspondait pas à son intuition. Et Revel dit « c'est totalement stupide ». Voilà un philosophe qui ignore, qui veut ignorer une découverte majeure des sciences. C'est absolument inadmissible. Je ne peux pas prendre au sérieux un philosophe qui dit « cette découverte scientifique contredit mon intuition ». De la même manière, ailleurs, il dit « je ne veux pas parler d'art ou de politique avec quelqu'un qui ne sait pas comment fonctionne l'ADN ». Ce sont des découvertes scientifiques qui font partie de notre univers mental aujourd'hui, tant qu'il faut en tenir compte. Il y a des conséquences de ces découvertes. Et il voudrait avoir une culture presque universelle. Il admire beaucoup des auteurs comme Voltaire qui introduisaient Newton en France. Il admirait beaucoup des hommes comme D'Alembert qui était un grand écrivain, un grand traducteur et un grand mathématicien. Il admirait beaucoup Rabelais qui était médecin. Il admirait beaucoup Montaigne parce que sa curiosité était universelle et qu'il avait autour de lui et même dans sa tête toute une bibliothèque à la fois philosophique, littéraire, scientifique. C'est ça qui importait à Revel, de ne pas établir des cloisons, de ne pas établir des séparations entre les différents domaines. Et c'est pour cela que l'exemple que vous donnez est parfait. Un tableau peut vous émouvoir, mais pourquoi est-ce qu'il ne vous ferait pas réfléchir? Pourquoi est-ce qu'il ne serait pas révélateur aussi d'un tournant politique, etc., etc.?
Mais Jean-François Revel était quand même particulièrement sensible à l'élaboration de la pensée chez les artistes, en fait.
Oui, bien sûr, parce qu'au départ, il a quand même fait des études de philo, il est agrégé de philosophie, ça vous marque à vie. Mais il se voulait tout de même généraliste.
Mais il est quand même plus penseur que critique, esthète. Quand on voit ce qu'il écrit sur Matisse, il met surtout en avant l'adaptation de l'œuvre avec la pensée de Matisse, une pensée qui ne fait qu'une, J'écris, je vais lire ce qu'écrit Jean-François Revel. Quel gageur d'écrire sur Matisse, donc il parle d'un ouvrage qui a été écrit sur Matisse, ce peintre dont la perfection défie toute logomachie, qui, chez qui la beauté sereine ridiculise à l'avance tout pédantisme, toute théorisation. Il n'a jamais fabriqué de manifeste, décoché de paradoxes, simulé d'autodafé. À quoi donc accrocher le discours, à la fois extrêmement intelligent et fort peu théoricien, non par incapacité mais par méfiance, Matisse répondait aux questions, exprimait ses idées surtout en peignant.
Mais oui, d'abord, il note l'extraordinaire difficulté qu'il y a à parler d'art, comme il a noté l'extrême difficulté qu'il y a à parler de musique. Comment rendre par des mots ce que les grands peintres expriment par le crayon et la couleur, c'est évident. Mais il ne veut pas simplement s'arrêter à la surface. Jean-François Revel, certes, était sensible à la beauté, sensible à la sensualité d'un tableau. Mais il ne voulait pas s'arrêter à l'esthétique, il voulait aller au-delà. Il supposait qu'il y avait aussi une pensée, fatalement une pensée. Et pour lui, l'homme est un animal qui pense. Et il nous rappelle à chaque phrase, n'oubliez pas qu'au fond, votre vocation, c'est de réfléchir, d'ouvrir les yeux et de ne pas succomber à l'erreur.
Jean-François Revel avait une vision, il me semble, assez précise de ce que devait être un artiste, ou comment la République des lettres, comme on l'appelle, devait s'organiser. Et il semblait presque regretter cette période où il en parlait à propos de Supervielle en disant qu'il avait été reconnu, enfin, de sa façon d'être poète. Et il semblait regretter cette civilisation littéraire d'avant-guerre où le critère dominant, sinon exclusif, était esthétique, où la vie littéraire se caractérisait par des rapports étroits, confiants et généreux entre écrivains, là je le cite. La réputation ne se gagnait pas comme aujourd'hui en pénétrant une sorte de salle commune de la célébrité où se côtoient le coureur cycliste, l'écrivain, l'animateur de télévision, le couturier et le cuisinier. Réussir dans les lettres, c'était d'abord conquérir les autres écrivains.
Oui, tout à fait. Là, évidemment, ce qui est dénoncé dans cette phrase, c'est la conception de la culture telle que la prône Jack Lang, par exemple. Tout est culturel. Le soutien-gorge de Madonna doit être exposé à côté d'une médaille antique ou de la victoire de Samothrace. Non, tout n'est pas culturel. On ne peut pas simplement amasser des objets quels qu'ils soient et essayer d'en faire un musée. On ne peut pas non plus mélanger le couturier, le coureur cycliste, l'écrivain et dire voilà, tout cela fait partie de nos célébrités. Il était tout à fait anti-Pipel dans ce sens-là. Mais ce qui se cache aussi derrière cette phrase, c'est que si nous mélangeons tout, si nous ne distinguons plus, c'est que nous n'avons plus d'hiérarchie des valeurs. Or, Jean-François restait attaché foncièrement à une certaine hiérarchie des valeurs, à commencer par la qualité de l'enseignement. La qualité de l'enseignement qui consiste à apprendre à lire, à écrire, à calculer, c'est-à-dire à jeter les bases qui permettent ensuite à l'individu de raisonner, à acquérir une culture générale faite à la fois d'histoire, de littérature, de philosophie, de science, de sport, de gastronomie, de musique, car c'était un peu un homme de la Renaissance. Il voulait former des hommes aussi complets que possible, sans exclusive, mais de qualité. Alors, ce qui le gênait, C'était des journalistes dont les informations étaient approximatives et le style fautif. Ce qui le gênait, c'était de recevoir des cartons d'invitation de l'Élysée, il le raconte dans le voleur dans la maison vide, où on confond Jean-François Revel avec Jacques Revel. Il dit, mais enfin, ces gens-là s'occupent de protocole à longueur d'année, et ils devraient savoir que le prénom permet de distinguer un Revel d'un autre. Alors il se gausse de cela. Il a horreur de l'inexactitude, il a horreur du laisser-aller. Il a horreur de l'information non contrôlée. Ça vient de son métier de journaliste. Et partout, il relève l'erreur, il relève l'imposture, il relève le mensonge. Alors évidemment, entre gens de qualité, on s'adresse d'abord aux autres gens de qualité. Les écrivains, encore avant la guerre de 39-45, formaient une espèce de république des lettres où tout le monde se connaissait, pas seulement en France, mais entre la France, l'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne, etc., etc. Encore que la période de l'entre-deux-guerres a déjà vu disparaître un peu cet univers. Il existait totalement avant la guerre de 14-18, et il a été évoqué admirablement par un auteur que François Revel aimait beaucoup, c'était Stefan Zweig, dans Le Monde d'hier. Mais il ne faudrait pas faire de Jean-François Revel un nostalgique. Même s'il admirait cette république des arts et des lettres qui existait en Europe jusqu'en 14-18, il était résolument tourné vers l'avenir. Et c'est ce qui montre aussi la chronique que vous avez citée sur Disneyland. C'est un phénomène moderne, il ne faut pas se voiler la face. C'est comme ça, c'est la forme moderne de la culture populaire. Elle vient des États-Unis. Tant pis ou tant mieux. Il n'était pas du tout crispé à la guerre des États-Unis, il n'y avait pas à être pro ou anti-américain, il y avait à considérer l'Amérique comme quelque chose d'absolument formidable, offrant des possibilités quasiment illimitées à l'individu qui voulait faire quelque chose. Donc il n'y avait pas à être pour ou contre, il y avait à prendre ce qui était positif et à dénoncer ce qui était négatif, comme il essayait de le faire pour la France et l'Europe.
Alors Robert Kopp, pour finir, que penser du style Jean-François Revel ?
Ah, le style de Jean-François Revel est un style vif, est un style percutant, qui manie le paradoxe, l'humour, l'ironie. Il est évident que il y a un certain nombre de modèles qui ont guidé Jean-François Revel toute sa vie. Je pense que pour une certaine culture et une certaine sagesse, c'est Montaigne, son grand homme. Et aussi pour une certaine approche sans prévention, sans préjugé du monde. Montaigne, le voyageur, l'observateur, caustique, ironique. On dit toujours dans les histoires littéraires que Montaigne, en décrivant le monde, parle de lui. Non, en parlant de lui, il décrit le monde. Jean-François Revel renverse la donne. Mais aussi Rabelais, pour la truculence. Nous n'avons pas parlé de Revel gastronome. Nous n'avons pas parlé de son magnifique livre Un festin de paroles, parce que c'est quelqu'un pour qui la table était un élément très 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 important de la culture. Là, il aurait pu être anti-américain en dénonçant les fast-foods. Vous ne trouverez pas d'article où il fait l'éloge du McDonald's. Au contraire, il était un grand amateur des cuisines du terroir. Et pour d'autres occasions, son grand homme était Voltaire ou Beaumarchais. Dénoncer la supercherie, dénoncer l'erreur, dénoncer l'imposture. Et pour ses mémoires, il aurait bien aimé s'inspirer un peu de Saint-Simon.
Et toujours dans le style de Jean-François Revel, on peut remarquer qu'il s'agit essentiellement de textes courts. C'est un format qui lui convient particulièrement.
C'est un format qui lui convient parfaitement et c'est un format qui est suggéré par la profession qui a été quand même la sienne, le journalisme. C'est un très bon journaliste, il a appris à faire des textes courts et en plus ça lui convenait. Je ne sais pas si la comparaison est bonne, mais il y a des sportifs qui sont excellents pour le 100 mètres ou le 200 mètres, mais on ne leur propose pas de courir le marathon. Jean-François Revel est absolument excellent sur la courte distance, percutant. Le genre court lui convient. Et c'est en cela que c'est un homme des Lumières. Au XVIIIe siècle, c'est le genre court qui prévalait. La lettre, l'article de dictionnaire, le pamphlet, le traité. Eh bien, je pense que Jean-François Revel est un homme des Lumières. Et le combat qui a été le sien a été aussi pour répandre les Lumières, pour combattre les obscurantismes, où qu'ils soient. Ni Marx ni Jésus, c'est-à-dire pas de croyance sans qu'on interroge ses croyances. Et son grand ennemi était évidemment le fanatisme partout où il le trouvait, où il pouvait le débusquer. Mais il savait aussi que la propension de l'homme à croire était très grande. Il y a un livre de lui qui s'intitule « La connaissance inutile ». Nous savons énormément de choses, mais nous n'en tirons pas les conséquences. On a beau nous démontrer que le stalinisme est un régime absolument sanguinaire, criminel, etc. Eh bien, le communisme ne figure toujours pas dans la liste des crimes contre l'humanité. Alors que, ma foi, les génocides qui ont été perpétrés sous des régimes communistes, que ce soit en Russie, que ce soit au Cambodge, que ce soit en Chine, sont aussi horribles que d'autres génocides. Nous le savons, les statistiques sont là, mais rien ne bouge. Rien ne bouge, non. On peut toujours dire « je suis communiste » sans que on vous inquiète.
Merci beaucoup Robert Kopp d'être venu partager votre lecture de Jean-François Revel et votre amitié pour Jean-François Revel. Je rappelle que vous êtes correspondant à l'Académie des sciences morales et politiques et professeur de littérature française à l'Université de Bâle. Bonne lecture à tous nos auditeurs des écrits de Jean-François Revel.
Merci.